4 heures. Phare FM. Vous écoutez Phare FM dans la nuit autrement.
La Bible dit.
Jésus dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Be too far, and I meant that from the heart. I see the mountain getting high, I see it stacking up against you. I always said you were a fighter, but you've got your doubts tonight. Well, I'm here to remind you.
never be the same. Some things are only for a season, and just the thought of letting go, well, it's brought you to your knees. Oh, but if you can make it, you can make it through the night. I can promise that the sun is gonna rise. You wake up just a little bit stronger, so hold on just a little bit longer. 'Cause it don't matter where you come from, I know we can get through this. It might feel like it's been so long, but we keep on keeping on.
De Light, Toby Mac sur Phare FM. 4 heures passées, on est ensemble, dans la nuit autrement. Ici jusqu'à 5 heures, Mireille avec vous, encore pendant 55 minutes. J'espère que vous allez bien. Si vous venez de vous réveiller, bon courage. On est le 1er mai, c'est la fête du travail, mais il y a ceux qui doivent aller travailler. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous propose de poursuivre notre programme. Tout à l'heure, ne manquez pas votre premier rendez-vous avec Patrice Martorano dans Pain de Vie, où il parlera de relations. Et tout de suite, Loï et la chanson Gold.
Minuit 5 heures, la nuit autrement
avec Mireille. sentirai toujours mieux avec toi.
I'm here when I need you the most.
Ce que j'essaie, c'est t'avoir à mes côtés.
White and gold.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
La photo que vous voyez ici représente la thématique que nous allons voir ce mois-ci, la thématique de ce Dieu qui désire se connecter avec nous, et la thématique, vous voyez pas le hashtag, mais c'est sur la notion du mot religion, je vais l'expliquer dans quelques instants. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir, est-ce que vous le croyez, une relation avec lui. Et j'ai eu le privilège d'aller... J'avais tout juste 17 ans, d'aller au Vatican et à la chapelle, plus exactement à la chapelle Sixtine, où il y a cette représentation. En fait, cette représentation, c'est la chapelle Sixtine à Rome, et c'est une chapelle qui a été entièrement peinte. C'est pas un tableau, c'est toute la chapelle qui est peinte sur les murs, sur le plafond. Elle est peinte entièrement. C'est juste une œuvre. Moi, c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, et elle est toute peinte. C'est Michel-Ange qui a peint la chapelle Sixtine en entier, et c'est juste un joyau. Et en plein milieu, sur le toit, en plein milieu, la représentation principale est celle-ci. Où l'on voit un Dieu, et c'est vraiment fort ce que ça veut dire, où on voit un Dieu littéralement le buste en avant, et qui est là, et on le voit, on voit pas tout le tableau là, on voit pas toute la représentation, mais on le voit, il étend sa main le plus loin possible, il y a un effort incroyable de la part de Dieu, il se met en avant pour aller toucher le doigt de l'homme, pour rentrer en connexion, en relation avec lui. Et de l'autre côté, on voit un homme, on n'a pas mis la représentation parce qu'on voyait toute sa jambe dévêtue, puis on voulait vous épargner par pudeur et toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté, on voit la main de l'homme qui, lui, le buste n'est pas en avant, bien au contraire, le buste est en arrière, il est allongé sur une sorte, comme s'il était allongé sur un canapé, très flegmatique, et il est comme ça, et il tend sa main comme ça. D'un côté, c'est saisissant la différence. D'un côté, t'as un Dieu qui fait un effort incroyable pour aller toucher l'homme, et de l'autre côté, t'as l'homme qui est comme ça. Et il y a dans ce tableau, dans cette représentation, il y a cette pensée d'un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous. Et malheureusement, la majorité des hommes ne le comprennent pas, ou alors sont très nonchalants dans cette connexion qu'ils désirent avec Dieu. Mais j'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. Nous voulons rentrer en connexion avec Dieu. De la même manière que Dieu veut rentrer en connexion avec moi, en relation avec moi, je veux rentrer en relation avec mon Dieu. Amen. Alors que tous ceux qui désirent rentrer en relation avec Dieu applaudissent et acclament celui qui mérite que nous puissions avoir cette connexion avec lui. Vous savez, souvent dans la pensée évangélique, il y a cette pensée que la religion, c'est pas bien. Et souvent même un des slogans que nous avons, c'est je ne veux pas d'une religion, je préfère avoir une relation. Et souvent les gens disent ça, sauf que les gens qui disent ça ne sont pas vraiment au courant de l'étymologie des mots et de ce que veut dire le mot religion. Le mot religion, c'est un mot latin qui veut dire, qui se prononce religare et qui veut dire relier, attacher, relation. En d'autres termes, quand je dis je ne veux pas d'une religion, mais je veux d'une relation, c'est fou, c'est comme absurde, c'est comme si on disait, finalement, si on le traduit en français courant, c'est comme si on disait, moi là, je veux pas d'une relation, mais je veux d'une relation, vous comprenez? C'est ça qu'on est en train de dire, en fait, finalement. Et si le mot religion peut être péjoratif dans certains sens, et je le comprends, toute la notion de religiosité, d'hypocrisie, de faux-semblants, d'apparence, et toutes ces choses-là qu'on rejette et qu'on ne veut pas, mais il y a quand même la notion du bon mot religion, qui veut dire simplement être relié, être connecté à son Dieu. Même la Bible nous parle de la religion pure et sans tache. Donc il y a ce désir où Dieu désire que nous puissions être reliés, connectés, que nous puissions avoir une relation avec lui. Parce que le désir et le cœur de Dieu, écoutez bien, c'est d'être notre ami. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Un jour, Jésus va dire à ses apôtres qui sont autour de lui, il va leur dire cette phrase juste incroyable. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas, mais l'ami sait. Et le désir de Dieu, c'est pas que vous soyez juste des serviteurs, accomplir des choses, mais le désir et le cœur de Dieu, c'est que nous puissions être des amis. Il y a une grande différence entre un employé, un serviteur et un ami. Un employé, généralement, n'est pas l'ami de son patron. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le monde séculier, dans une grosse boîte. Le patron, c'était pas mon ami. Je connaissais tout juste son prénom et c'est juste, il me donnait des ordres de ce que je devais faire, des tâches que je devais exécuter. Mais c'est pas mon ami, comprenez-vous? Il ne m'a jamais fait rentrer dans son jardin secret. Il ne m'a jamais connecté à lui. Il ne m'a jamais parlé de ses joies, de ses peines, de ses échecs. Il m'a jamais parlé de tout ça. Or, Jésus est différent. La Bible nous dit que ce que désire Jésus, c'est de nous faire comprendre que on n'est pas juste des employés. On n'est pas des employés à l'église. On n'est pas des employés dans ce monde. Mais ce que Dieu désire, c'est qu'on soit ses amis. Ce que Dieu désire, c'est nous faire passer dans le jardin secret où il va nous révéler des choses, où il va nous parler de ses joies, où il va nous parler de ses peines, où moi-même je vais pouvoir ouvrir mon cœur. Alors, est-ce que vous désirez être l'ami de Dieu et avoir cette relation avec Dieu? Un serviteur s'inquiète de son travail alors qu'un ami s'inquiète de sa relation. Comprenez-vous? Et le désir de Dieu, parce que Dieu est notre ami, il s'inquiète de la relation qu'on a avec lui. Bien sûr, il y a un appel à faire des choses, à servir Dieu. Mais avant tout ça, le cœur de Dieu, c'est de s'inquiéter pour notre relation. Comment notre relation va? Comment ça se passe? C'est ça le cœur de Dieu. Et j'aimerais, à travers le récit de ce matin, vous encourager, m'encourager moi le premier, à revenir à l'essentiel afin d'avoir la meilleure des relations possibles avec Dieu. Premièrement, Jésus désire développer une communion avec nous. Juste pour vous remettre dans le contexte de ce qu'on va lire, le chapitre commence, de ce que nous allons regarder, le chapitre commence, il y a Jésus qui doit aller à Jérusalem parce qu'il sait que la fin est proche. Alors il se met en route pour aller à Jérusalem et là il a des disciples autour de lui, il y a toute une foule qui est là, mais il en prend 70. Et il dit aux 70, allez dans les villes, allez dans les villages, prêchez l'évangile, annoncez le royaume de Dieu, délivrez les captifs, guérissez les malades. Et là les 70 gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont. Les 70, ils vont, ils prêchent, ils annoncent l'évangile avec puissance, avec onction, le royaume de Dieu. Waouh! Les malades sont guéris, les estropiés, boum, se remettent à marcher, les lépreux sont guéris. Il y a une puissance de Dieu qui se manifeste, c'est juste incroyable. Les démoniaques sont délivrés, c'est juste waouh! Les gens acceptent Jésus, c'est juste fou ce qui prend place. Et là, contents de leur mission, ils reviennent voir Jésus. En disant Jésus, et Jésus leur demande alors comment ça s'est passé, et là il parle, Jésus c'était fou, c'était incroyable, il s'est passé ça, guérison, délivrance, proclamation du message, c'était juste incroyable. Et Jésus était tout content aussi, il dit oui c'est vrai, quand ça se passait, je voyais le diable qui tombait du ciel, c'était quelque chose de fort. Et à la fin Jésus remet la chose à l'essentiel, il dit mais s'il y a une chose qui doit procurer votre joie, et puis c'est pas en contradiction avec ce qu'il venait de vivre. Jésus le valide ça, le fait que les malades soient guéris, toutes ces choses-là. Mais Jésus ramène l'essentiel. Alors, s'il y a quelque chose qui doit vous rendre heureux, au-delà de ça, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous savez pourquoi? Parce que être inscrit dans le livre de vie, ça veut dire pour Jésus être en relation avec nous pour l'éternité. Et s'il y a une chose qui préoccupe Jésus, c'est ça. Le cœur de Jésus, c'est que nous soyons pour l'éternité en connexion avec lui. Au-delà de ce que nous pouvons faire pour Jésus, il y a quelque chose qui est important pour le cœur de Jésus, c'est d'être en connexion avec nous et d'être en relation avec nous. Au-delà de mon job, au-delà de mon ministère, au-delà de mon travail, ce que Jésus veut, c'est, et ça fait sa joie, et c'est ce qui doit faire notre joie, c'est d'avoir la possibilité. C'est quand même fou quand on y pense. Si demain je vais avoir une audience avec le président de la République, je vais avoir vraiment du mal à l'avoir et peut-être je ne l'aurai jamais de ma vie. Mais est-ce que vous savez que jour après jour, vous pouvez accéder au trône du roi des rois? Chaque jour, vous pouvez rentrer dans la présence de Jésus. Chaque jour, vous pouvez être près de lui. Chaque jour, vous pouvez partager avec lui. Et ça, ça fait le plaisir, ça fait la joie du cœur de Dieu. Alors Jésus qui est là et il est dans son cheminement. Il dit à ses disciples, bon voilà, on part à Jérusalem, la fin est proche. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il va faire une halte. Il avait des amis, Jésus avait beaucoup d'amis. Il va faire une halte, c'était pas un leader froid, sans amis, il avait beaucoup d'amis. Et là, il dit, on va faire une halte chez des amis. Et là, il y a un petit village à quelques kilomètres de Jérusalem, dans un petit village qui s'appelle Béthanie. Et là, il s'arrête à Béthanie avec ses disciples et ils vont toquer à la porte, à la maison de Lazare, de Marie et de Marthe. Et alors que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise au pied du Seigneur, écoutait l'enseignement de la parole. Marthe était très affairée pour préparer tout le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il donc rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail ?» Dis-lui donc de m'aider. Comprenez-vous? Il y a cette scène qui est juste incroyable. Jésus arrive et lorsqu'il frappe à la porte, on doit comprendre ceci. On est à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans en arrière. On n'est pas à l'époque des téléphones, on n'est pas à l'époque de Twitter, de Facebook et toutes ces choses-là. On n'est pas en France en 2017. Il n'y a pas tu téléphones avant de passer à la maison, vous comprenez? Là, les gens se pointent comme ça. On se pointait comme ça chez les gens. Et là, les gens, la personne, Jésus, vient, puis c'est pas tout seul. Il vient avec toute sa bande. Il vient avec tous ses amis. Et là, il vient, il toque à la porte. Et là, ils ouvrent la porte. Et là, ils le voient. Et là, ils le voient, tout le groupe. Et moi, je suis persuadé que, waouh, pour eux, ils sont super contents. Ils voient Jésus. Jésus vient à la maison. C'est waouh, c'est incroyable. Vas-y, rentre Jésus, rentrez tous. Toute la semaine là, rentrez. Il y a de la place pour tout le monde. Et là, il s'assoit. Jésus s'assoit. Puis Jésus commence à enseigner. Et là, j'imagine les gens studieux, hein, chaleureux, mais l'atmosphère est quand même assez studieuse. Les gens sont assis. Et là, il y a une jeune fille, Marie. Elle aime Jésus de tout son cœur. Et là, elle vient, la Bible nous dit, elle vient se mettre au pied de Jésus. Et là, Jésus enseigne, et puis elle est assise au pied de Jésus, elle le regarde, et ses yeux sont là, elle est touchée par l'enseignement, par ce qui se dégage de Jésus, son cœur est bouleversé. Et pendant ce temps de grâce, ce temps d'enseignement, ce beau temps-là, il y a une autre femme, qui elle s'appelle Marthe, la grande sœur. Et elle, si tout ça c'est chouette, c'est le fun, la réalité c'est quand même du monde qui est à la maison. Et c'est quand même, je dois faire à manger moi pour tous ces gens-là. Et là, elle commence, ok, très bien. Et là, elle doit jeter, elle n'ose pas interrompre, Jésus parle. Alors là, elle doit chercher certainement, elle doit chercher à se faire voir par sa sœur. Tu vois, oh, tu me vois là, viens m'aider. Mais la sœur, elle la capte pas, elle est juste absorbée par Jésus. Et là, certainement que Marthe commence à faire la table. Ok, ben, je vais faire la table toute seule, ils viennent pas m'aider. Et là, elle prend, et certainement comme quand on veut se faire entendre, quand on travaille et qu'on a envie que les autres le sachent pour qu'ils viennent nous aider, certainement qu'elle doit poser la table, mais pas de manière délicate. Certainement qu'elle doit prendre des assiettes et bah, il y en a un qui va me capter, ouais. Et là, elle regarde sa sœur, et sa sœur, rien du tout, quoi. Elle est juste là, elle écoute Jésus. Et là, certainement, c'est une méditerranéenne. Moi, je suis un méditerranéen. C'est une méditerranéenne, que ça soit les Italiens, les Espagnols, Juifs, Arabes, etc. Certainement, tu sais, comme dans les dessins animés, là, le rouge commence à monter, là. Puis d'un seul coup, il y a la fumée qui sort comme ça, là. Et là, certainement, elle est là. Ok, ça monte. Il y a personne qui vient m'aider. C'est pas possible dans cette maison, quoi. Elle est là. Et elle prend, bon, ok, là, j'ai fait la table toute seule encore aujourd'hui. Et là, elle prend, bon, je vais faire à manger maintenant. Et là, je l'imagine en train de prendre son oignon, et elle est mince. Mais elle est mince, pas délicate. Toujours, elle veut se faire entendre, elle veut que sa sœur la capte. Et elle est là, certainement, elle va pas me voir. Et là, non, pire, certainement qu'il y en a un, Pierre, qui la regarde en disant, s'il te plaît, tu peux faire un peu moins de bruit? Tu peux pas travailler doucement, s'il te plaît? Et là, certainement que la fumée est sortie, là, ça en peut plus, là. Là, j'en peux plus, là. Et là, certainement, alors qu'ils sont tous là, bien assis, Marthe sort de sa cuisine, elle va au plein milieu, là. Il y en a pas marre, j'en ai ras-le-bol, je suis toute seule à bosser. Et puis toi, là, tu peux pas venir m'aider, Seigneur, dis-lui de venir m'aider. On aurait l'impression d'assister, c'est deux sœurs, hein. C'est les frères et sœurs. Pour ceux qui ont des familles, vous savez comment ça se passe. Tu peux pas lui dire de venir m'aider à elle. C'est moi la boniche dans cette baraque, je fais toujours tout toute seule. Ma mère ajoutait, même le chien, il m'écoute pas. Non, c'est pas vrai. Maman, si tu regardes la vidéo, je te demande pardon. Et elle pète littéralement un câble. Littéralement, alors que Jésus est là, écoutez bien, alors que Jésus est là, que la grâce est déversée, la Bible dit que nous sommes des vases. Nous sommes des vases d'argile, alors que la grâce est en train de remplir les vases des 12, alors que la grâce est en train de remplir le vase de Lazare. Alors que l'onction est en train de remplir le vase de Marie, Marthe, elle est en train d'être remplie de fureur, de colère et d'amertume. Et Jésus peut être dans la place, et au lieu d'avoir une relation avec lui, nous ne voyons que les choses qui nous énervent, et avoir littéralement se remplir de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et là, Marie, imaginez un peu, deux secondes, la scène. Mettez-vous à leur place. Alors que tout le monde est assis, on écoutait Jésus, tout se passait bien. Puis d'un seul coup, on voit ce volcan qui surgit, là. Certainement, Pierre, il a dû regarder les gens en disant, oulala, comment elle va prendre cher, la Marie, quand on va partir. Ça va être chaud, hein. Et tout le monde a dû être stupéfait. Tout le monde, wow, qu'est-ce qui se passe, là? Et il y a cette colère qui est là. Et la réalité, on peut se poser cette question, nous-mêmes, De quoi sommes-nous remplis ? Ce matin, tu es venu dans ce lieu. On peut être rempli pendant la louange, l'adoration. Tout à l'heure, on va louer Jésus et le message, etc. Et il y a la possibilité. Je peux être rempli de la grâce, de l'onction, de la paix, de la joie, de l'amour, de la douceur, de tout ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner. Ou je peux, en même temps, alors que Jésus est là, me laisser remplir de toutes sortes d'inquiétudes, être absorbé par toutes sortes de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Vers quoi tu places ta relation ? Relation, ça veut dire être relié. À quoi tu es relié ce matin? Est-ce que nous sommes reliés à Jésus ou est-ce que nous sommes reliés et absorbés par toutes sortes d'inquiétudes qui viennent nous voler notre paix et qui nous amènent à être en colère? J'espère que vous êtes avec moi, mais nous voulons être reliés à Jésus. Amen. Il y a un passage dans le psaume 23 qui dit que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. C'est David qui dit ça. Et il y a un dicton en France, vous le connaissez certainement, et certainement que Marc devait le connaître, ce dicton aussi. C'est quand on dit « la coupe est pleine ». Quand on dit « la coupe est pleine », est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est négatif, hein. Quand on dit, règle générale, « ma coupe est pleine », là, ça veut dire « faut pas en rajouter, là ». Parce que là, je suis prêt à exploser. La coupe est pleine. Et là, généralement, il y a une deuxième expression qui vient le compléter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Généralement, la coupe est pleine, le petit goutte elle vient et là ça explose dans tous les sens. Sauf que David lui aussi disait, je désire que ma coupe déborde. Mais lui, il désirait que sa coupe déborde, non pas de fureur, de colère, mais il voulait que sa coupe déborde de la grâce et de l'onction, de la paix et de la douceur de Dieu. Amen. Alors nous sommes tous remplis aujourd'hui, nous sommes tous reliés aujourd'hui, nous avons tous une relation aujourd'hui. La question est de savoir à quoi je suis relié, en quoi j'ai ma relation. Est-ce que j'ai ma relation envers quelqu'un, ce Dieu incroyable et unique qu'est Jésus, qui vient me remplir de douceur, de paix, qui me dit ne t'inquiète pas. Vous savez que dans la Bible, il y a 365 fois, il y a cette déclaration, n'aie pas peur, sois sans crainte, n'aie pas d'inquiétude. Il y en a une pour chaque jour de l'année. Et quand je suis connecté à Dieu, ok Seigneur, je comprends, même si je suis pas le meilleur, même si j'ai mes défauts, etc., Mais aujourd'hui, je prends un temps, je suis avec toi, et c'est juste toi, moi, et je sais que tu vas me remplir de ta grâce, de ton onction, de tel amour, et ça va me permettre que ma coupe déborde, mais pas de colère et d'amertume, mais que ma coupe va déborder de la grâce que tu as pour moi. Amen. Le cœur et le désir de Dieu, deuxièmement, c'est que Jésus désire nous ramener à l'essentiel. Le cœur de Jésus, lorsqu'il voit Marthe qui se met en colère, comme quand tu te mets en colère, ou quand moi je me mets en colère à travers peut-être un collègue, à travers mes enfants, à travers un mari, une épouse, etc. Le cœur de Dieu, c'est même pas de nous juger. Mais ce que Dieu veut faire, ce que le Seigneur veut faire, ce que Jésus veut faire, c'est nous ramener à l'essentiel. C'est de nous ramener près de son cœur. J'ai mis un croquis, si tu peux le mettre, s'il te plaît, qui montre une cible où on voit Jésus qui est au milieu. Et Jésus, quand le milieu là, ça représente le cœur de Dieu. Les battements, littéralement, du corps de Dieu. Ce que vous voyez tout au fond sur la gauche, c'est la foule. Vous savez que la foule, la Bible nous dit que Jésus, il y avait une foule qui le suivait. Tous les dimanches matins, il y avait une multitude, si je pouvais dire ça comme ça. Mais en tout cas, tous les jours, il y avait une multitude qui suivait Jésus. Et certainement des gens qui aimaient Jésus, certainement des gens qui étaient sauvés. Mais il restait qu'une multitude. Ils ne s'approchaient pas. Ils n'avaient pas de relation. Ils ne rentraient pas en proximité avec Jésus. Ensuite, celui que j'ai mis ensuite, c'est les 500. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il s'est montré à 500 personnes. Et lorsqu'il est ressuscité, il y en avait 500 au milieu des milliers, des milliers, des milliers qui suivaient Jésus. Il y en a 500 qui avaient une proximité un peu plus importante. Dans ces 500, il y en avait encore 70 qui avaient encore une proximité plus importante. Ceux que Jésus servait comme des leaders, ces gens que Jésus a utilisés pour les envoyer, ce que je disais tout à l'heure, les envoyer chasser les démons, guérir les malades, annoncer l'évangile. Et ils avaient vraiment, ils étaient proches de Jésus, ces 70. Et ils étaient proches du corps de Jésus, mais il y avait encore une distance. Et puis ensuite, de ces 70, il y en a 17. C'est les 12 apôtres, plus les 4-5 femmes qui suivaient tout le temps Jésus. On sait qu'il y avait Marie de Magdala, Marie de Béthanie, Marthe et plusieurs Marie, la mère de Jésus. Elles étaient 4-5 à suivre Jésus. Elles étaient là, elles le soutenaient même, et elles étaient souvent avec les apôtres, et souvent ces femmes étaient là. On les voit souvent dans le récit des évangiles. Et eux, ils jouissaient d'une proximité encore plus importante. Et au milieu de ces 17, il y en avait encore 12, les 12 apôtres, qui eux étaient tout le temps avec Jésus. Ils passaient tout le temps leur temps avec Jésus pendant plus de 3 ans. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils voyaient Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Ils se réveillaient avec Jésus. Et ils étaient tout le temps avec Jésus. Mais dans ces 12 apôtres, il y en a encore 3 qui étaient encore plus proches de Jésus. Savez-vous lesquels c'était? Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean ont vécu des choses avec Jésus que les autres n'ont pas vécues. Par exemple, Pierre, Jacques et Jean ont été au mont de la Transfiguration. Ils ont vu des choses incroyables que les autres n'ont pas vues. Quand la petite fille de Jaïrus est ressuscitée, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui. Ils étaient encore un peu plus proches. Mais encore plus proches que Pierre, Jacques et Jean, dans ces 3, il y en avait encore un qui était encore plus proche. Vous savez lequel c'était? C'était l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. La Bible nous dit littéralement, alors que c'est le dernier moment, Jean, cette scène est tellement belle, tellement touchante, émouvante. La Bible nous dit que littéralement Jean avait sa tête qui reposait sur la poitrine de Jésus. Ça veut dire que littéralement, quand ton oreille est sur la poitrine de quelqu'un, tu entends les battements de son cœur. Jean est le seul qui a entendu le cœur de Jésus. Il était tellement proche de Jésus que Pierre était pas loin, il est pas dans la foule, Pierre il est au numéro 3. Il était tellement proche que la Bible nous dit que Pierre, parfois, lorsqu'il voulait quelque chose, il passait par Jean. Il disait, demande-lui toi. Vous savez, un peu comme quand vous avez une relation privilégiée avec quelqu'un et qu'un autre le sait, il passe par vous. Eh, tu peux pas dire à lui s'il peut faire ça? Et littéralement, Jean était tellement proche que même Pierre, parfois, passait par Jean pour parler à Jésus. Et on peut être dans la foule du dimanche matin, on peut être dans les 500, et on peut entendre les battements du cœur de Jésus. Mais non, est-ce que c'est Jésus qui veut qu'il n'y en ait qu'un seul près de lui? Moi, je crois que le désir de Jésus, c'est qu'on soit tous et qu'on entende tous les battements de son cœur. Après, c'est juste que Jean, c'est juste que les 70, c'est juste que les 500, etc., ils ont été dans cette direction de « je veux vivre plus avec Jésus ». Alors, j'espère que vous êtes avec moi. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre plus avec Jésus? C'est quand même incroyable d'entendre les battements du cœur de Jésus. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'a dit le Seigneur à Marthe qui s'inquiétait. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée? Qui ne lui sera point enlevée? Comprenez-vous, pour Jésus, la chose la plus importante, c'est d'être près de son cœur. Et là, il voit Marthe. C'est pas que Marthe travaillait, que c'est pas bien de travailler pour Jésus. D'ailleurs, la Bible dit que je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc même quand on est ami de Jésus, on va servir Jésus, on va travailler avec Jésus. Mais la différence, c'est que avant de m'exciter et de faire plein de choses, je vais d'abord écouter le cœur de Jésus. J'écoute Jésus, je suis proche de Jésus, et ensuite, et uniquement ensuite, je me mets à travailler. Je me mets à servir. Parce que c'est un peu comme le principe des prémices que je prêchais dimanche passé. Quand on met pas Dieu en numéro 1, tout le reste est désordonné. Donc, avant de servir, avant de développer un ministère, avant de faire ceci, cela, je me tiens dans la proximité de Jésus, je reçois de lui, il me remplit de sa grâce, il me donne la force nécessaire, et ensuite, je me mets à travailler pour le roi des rois. En fait, ça se voit quelqu'un qui travaille, même quand il sert Dieu, et qui n'a pas de relation avec Jésus. Parce que c'est son caractère qui paraît. Mais quand on a été au pied de Jésus d'abord, qu'on a eu, on a reçu de la part de Jésus, on a été alimenté par Jésus, ensuite on se lève et on sert le Seigneur avec le caractère de Jésus. Même si de temps en temps il y a des petites rechutes, mais en tout cas, hop, on revient et il nous redonne sa force. Comprenez-vous? Et le désir de Dieu, c'est qu'on le serve. On est appelé à servir. Mais on est appelé à le servir en ayant d'abord, au préalable, était connecté à lui afin de recevoir ce qu'il veut faire dans nos vies. Amen. C'est pourquoi j'ai mis ceci. Soyons Marie avant d'être Marthe. C'est pas qu'il ne faut pas être Marthe. On est appelé à être des Marthes. On est appelé à servir Dieu. Mais avant d'être Marthe, je dois d'abord être Marie. Avant de m'exciter, de m'agiter de partout, je dois d'abord être Marie. Je dois d'abord avoir une relation avec Jésus. Amen. Donc il y a cet appel à retrouver le cœur de Dieu, que ça soit dans nos temps de louange. Je peux prier chez moi le matin, le soir. Je peux louer Jésus dans ma voiture. Je mets un CD puis je loue Jésus. Il y a mille et une façons. Je suis en train de faire la cuisine. Dieu me met une pensée. Je prie pour un frère. Je prie pour une sœur. Il y a mille et une manières d'être connecté à Jésus. Il y a bien sûr, je me coupe de tout et c'est juste Jésus, je lis la Bible et je prie. Mais même durant toute la journée où je suis dans ma voiture, où je marche, où je suis inspiré, où j'ai des choses et je peux être en connexion avec Dieu. Mais la chose que Dieu désire, c'est que nous soyons en relation avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, c'est la chose que Dieu désire, c'est qu'on soit amis. Mais Dieu aussi veut notre bien. Et il sait que si nous ne sommes pas, écoutez bien, collés à lui, si nous ne sommes pas reliés, religarés à lui, si on n'a pas de relation avec lui, tout ce que nous allons faire, écoutez bien, tout ce que vous allez faire, mes bien-aimés, va être stérile. Alors que quand je suis relié à Jésus, ce que je fais est fait avec grâce, avec onction, porte du fruit pour la gloire éternelle. Regardez ce que Jésus a dit. Je suis le cep, vous connaissez ce passage-là? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, j'ai demandé à Olga si tu peux revenir jouer du piano, s'il te plaît. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, écoutez bien, vous ne pouvez rien faire. Il y a même le passage qui dit littéralement, qui continue en disant, et puis non seulement vous ne pouvez rien faire, mais vu que parce que vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes plus que bon à être coupé, littéralement, mis de côté, jeté au feu. Waouh ! Vous comprenez l'importance d'être collé à Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, ça veut dire que Jésus est le tronc et que chacun d'entre nous, les sarments, c'est les branches. On est tous des branches collées au tronc. Est-ce que vous en avez conscience, hein ? Regarde ton voisin et dis-lui « Salut vieille branche !» Je t'avais dit que t'étais une branche. Il y a un tronc et le tronc, c'est Jésus. Et on est des branches collées au tronc. Et parce qu'on est collé à lui, par la sève nourricière, le tronc l'envoie dans les sarments que nous sommes, dans les branches que nous sommes. Et parce que la sève nourricière du Saint-Esprit passe dans le sarment, les branches que nous sommes, d'un seul coup, on se met à porter du fruit. Mais si on n'est pas relié, religaré, si on n'a pas de relation, si on n'a pas de religion avec Jésus, si on n'est pas relié à lui, qu'est-ce qui va se passer? La sève de l'Esprit ne pourra pas aller dans la branche que nous sommes et nous ne pourrons pas porter du fruit. Mais le cœur de Dieu, c'est que nous soyons ces branches collées à lui. Si Jésus était venu aujourd'hui en 2017, vous savez que Jésus, il utilisait toujours les passages, des métaphores par rapport à la vie des gens. Vous comprenez bien que je suis le cep et vous êtes les sarments, c'est une métaphore. On a tous conscience que Jésus, c'est pas un cep. Vous avez conscience de ça, hein ? C'est une image. Jésus n'est pas un cep et vous n'êtes pas une branche. C'est une image. L'image de « on a besoin d'être connecté ». Je pense que si Jésus était venu en 2017, voici ce que Jésus aurait dit. « Je suis l'électricité et vous, vous êtes un smartphone. Vous êtes des iPhones. » Vous ne saviez pas, hein ? Et si vous n'êtes pas relié à moi, t'as beau être le dernier iPhone à la mode, tu ne sers à rien. Pourquoi ? Parce que j'aurais beau appuyer, l'iPhone ne fonctionne pas. Tant que je ne suis pas relié à l'électricité, tant que je ne suis pas relié à Jésus, tant que je n'ai pas ce lien avec Jésus, j'ai beau avoir le potentiel incroyable de faire des choses magnifiques, je n'ai aucun impact. Aucune application dans ma vie peut s'ouvrir. Je ne peux servir à rien. Je suis juste bon à être remis dans la boîte d'emballage et être déposé dans le grenier. Mais si l'iPhone que je suis se retrouve religaré à l'électricité qui est là, je le branche. Littéralement, il est branché et d'un seul coup, boum, il s'éclaire. Comprenez-vous ? Et j'aimerais vous dire cette notion-là, c'est que peut-être aujourd'hui tu es venu et tu es éteint. Littéralement, tu es éteint. Tu as un iPhone, un Samsung, un ce que tu veux, un smartphone éteint. Il y a un potentiel. En toi, il y a des applications de fou, mais t'es juste éteint. Et tant que tu n'es pas relié à Jésus, tant que tu n'es pas relié à l'électricité, tant que tu n'es pas religaré, il ne va rien se passer dans ta vie. Et ce que Jésus veut aujourd'hui, c'est rentrer en connexion avec toi. C'est te tendre la main. Et alors qu'il va te tendre la main, tu vas te connecter à lui. Ta relation va t'activer. Et parce que tu vas être activé, tu vas avoir littéralement un impact pour le roi des rois. Parce que tu peux avoir les plus beaux des logiciels en toi. Si tu n'es pas activé, ça ne fonctionne pas. En revanche, je peux prendre un vieil iPhone 4 de 7, 8 ans d'âge, la vitre brisée. Mais lui, s'il est relié, celui-ci a été relié et chargé, lui, il fonctionne. Comprenez-vous ? Et l'essentiel, avant toute chose, c'est d'être lié à Jésus. Alors j'espère qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être liés à Jésus. D'avoir un religaré avec Jésus. D'avoir une relation avec Jésus. Il est le cep et nous sommes les sarments. Il est l'électricité et nous sommes des smartphones. Et on a besoin d'être connectés à lui. Afin que la sève nourricière du Saint-Esprit puisse venir en nous, afin qu'on puisse s'éclairer et devenir une lumière pour ce monde. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Pain de vie revient du lundi au vendredi à 1h15 et 4h15 sur Phare FM dans la nuit autrement. On poursuit notre programme musical avec John Lucas, Promised Land, et on va retrouver la parole du jour, le thème avancer ou reculer.
Oh, love will bring you to your knees, to sow seeds of grace. Your heart of me, of earth and sea, your eyes of time and space. Like a carpenter, I caught your hands from driftwood, from the deep. And I placed my veins inside your dreams to woo you while you sleep.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et Débigas.
Où tu iras, j'irai. Ruth 1, verset 16. Avancer ou reculer. Bonjour à tous. Le livre de Ruth illustre la différence entre ceux qui avancent avec foi et prennent des risques et ceux qui cèdent à la peur, jouent la sécurité et passent à côté du meilleur de Dieu pour eux. Le livre commence par ces mots. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab, verset 1. Tout va bien quelque temps, puis le drame survient. D'abord, Élimélec, le mari de Noémie, décède et elle reste avec ses deux fils. Ces derniers épousent des filles du lieu, Orpa et Ruth, puis ils meurent à leur tour. Accablée par le chagrin, Naomi décide de rentrer chez elle à Bethléem et conseille à ses deux belles-filles de rester à Moab et de retrouver un mari. Les deux jeunes veuves ont alors une réaction opposée. Orpa décide de rester là, même si c'est le cadre de son malheur. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit qu'elle connaît. C'est sa zone de confort. Elle n'a pas la foi pour aller de l'avant. Ruth est différente. Elle dit à Noémie « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. » Verset 16. Orpa recule, Ruth avance. Et c'est tout bénéfice pour elle. De retour à Bethléem, elle rencontre Boaz, son nouveau mari. Non seulement il est riche, mais il prend bien soin d'elle. Et leur fils sera l'ancêtre à la fois du roi David et de notre Seigneur Jésus. Dieu récompense la foi, pas la peur. Voici donc votre parole du jour. Il est temps de rompre avec le passé et d'aller de l'avant.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, une autre musique.
Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait.
chanson pour bien introduire notre prochain rendez-vous, les langages de l'amour. C'était Amandine Bourgeois, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et avant cela, je vais vous parler de ce 1er mai où on a l'habitude, où c'est la tradition d'offrir du muguet. Et pourquoi, quelle est l'origine de cette tradition? Semble que c'est le maréchal Pétain qui, en 1941, associe la fête du travail et de la concorde sociale au muguet, parce que tout simplement il préférait le muguet à l'églantine rouge qui pour lui était le symbole de la gauche et du communisme. Mais semble aussi que cette tradition d'offrir un bouquet de muguet le 1er mai remonte déjà à la Rome antique et au 1er mai 1560 précisément, eh bien Charles IX s'est vu offrir un brin de muguet à l'occasion de son déplacement dans le Dauphiné. Et maintenant que vous savez et tout. Eh bien, on va poursuivre notre programme musical sur Phare FM. On écoute Apollo LTD Futures Calling avant de retrouver les langages de l'amour. Merci de rester avec Phare FM et bon courage si vous devez vous lever pour aller travailler.
Certaines personnes, les verbes aimer et diriger s'opposent. Ils ne peuvent pas concevoir les deux mots comme allant de pair. Leur conception d'un chef, c'est d'être le dictateur autoritaire qui règne avec une main de fer, alors que celle d'aimer serait d'être inconsistant et faible. Mais dans la Bible, le mari ne correspond à aucune des deux façons d'être de ces stéréotypes. D'un côté, il ressent des émotions et il est capable d'exprimer la douleur et la joie, la compassion et l'encouragement. Il est capable de s'adresser à sa femme sur le plan émotionnel. De l'autre, il est fort et digne de confiance, ayant le sens des responsabilités pour le bien-être de sa femme et de sa famille. Il ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles, mais cherche des solutions qui profiteront à toute la famille. C'est un chef, pour sûr, mais il ne dirige pas tout seul. Il apprécie sa femme comme partenaire. Il veut être présent pour elle, mais il ne désire pas la dominer. Voilà le mari qui se comporte comme un dirigeant plein d'amour.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
I'm so tired of all this noise. It's just a fleeting sound to drown out your voice. I'm trying hard to find some peace of mind in this crazy little town, but it keeps wearing me down. It keeps wearing me down. It keeps wearing me down. Cars passing on the street, and everybody's got their plans for where they need to be. And all the night lights shine to burn my eyes, and I'm afraid that this town is getting the best of me. So traffic on I-45, but I'm just trying to get back home. So I drive till this road is gone, just to nothing personal. I just think that everybody gets a little so crazy when they're living in a suffocating city, and there's just no love. There's just no love. Yeah. Can you show me your love? I can feel your love.
Wherever that may be, Chris Cramp sur Phare FM. Dans quelques minutes, bonjour chez vous. J'espère que ça va. Eh bien oui, en ce 1er mai qui est un jour férié, vous devez vous lever pour aller travailler. Alors je vous souhaite quand même bon courage. Ne manquez donc pas votre prochain rendez-vous. Et puis, on va se terminer.